Il est 7h.
Les mesures qui sont peut-être un peu plus coercitives qu'au début du mois d'août n'ont pas encore un effet majeur, ne permettent pas en tout cas de réduire la circulation du virus tel qu'on le voit à travers les eaux usées.
Des eaux usées analysées avec attention pour évaluer la circulation du virus et le résultat est sans appel. Elle est équivalente à celle de début mars. Dopage et cyclisme, deux mots malheureusement à nouveau associés. Une enquête vise la formation française Arkéa Samsic. Deux personnes en garde à vue. Détail dans un instant avec Guillaume Biais. Des TGV français bientôt sur les rails espagnols. La SNCF se lance pour la première fois hors de nos frontières en tant qu'opérateur à part entière. Des trains low cost seront proposés sur la ligne Madrid-Barcelone. La République En Marche éparpillée façon puzzle. Le parti présidentiel s'est déchiré hier soir lors de son bureau exécutif, comme nous le racontera Jean-Rémy Baudot. Et puis Brassens, c'est une voix, mais aussi un style.
C'eût été mon ultime chant, mon chant du cygne. Mon dernier billet doux.
Les manuscrits originaux d'une vingtaine de chansons du poète sont vendus aujourd'hui aux enchères.
Juste après ce journal, les marchés financiers inquiets. Quand les courbes de la bourse croisent celles de l'épidémie, l'éclairage écho de Nicolas Barré avant le regard international de Vincent Hervouet. Insulte raciste, insulte homophobe, appel à la sévérité dans l'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour parler d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Décidément, le Tour de France 2020 accumule les problèmes, le report, son patron contrôlé positif au Covid et puis des rumeurs de dopage autour des Slovènes. Mais finalement, ce ne sont pas les meilleurs coureurs qui sont épinglés. Une enquête judiciaire est ouverte à l'encontre de l'équipe française Arkéa Samsic.
Deux suspects sont en garde à vue au sein de cette formation emmenée par le Colombien Quintana. Ce que vous racontez ce matin, Guillaume Biais, c'est que des produits et du matériel suspects ont été retrouvés par les enquêteurs pendant l'épreuve.
Oui, c'est lors d'une perquisition menée dans les Alpes mercredi dernier que les enquêteurs ont saisi des médicaments, du matériel médical et surtout ce que la procureure de Marseille appelle une méthode pouvant être qualifiée de dopante, sans plus de précision. C'est à l'occasion de l'arrivée d'étape à Méribel en Savoie que les gendarmes ont fouillé l'hôtel et les véhicules de l'équipe française Arkéa Samsic. Dans leur collimateur, le leader de l'équipe, le Colombien Nairo Quintana, son frère d'ailleurs, ainsi que les soigneurs de la formation bretonne. Mais l'affaire ne s'est pas ébruitée, les coureurs ont terminé le tour. C'est hier, au lendemain de l'arrivée finale, que les enquêteurs ont placé en garde à vue deux membres du staff médical, tandis que les frères Quintana, respectivement 17e et 95e de l'épreuve, ont été entendus librement. L'enquête préliminaire du pôle santé de Marseille vise clairement des soupçons de dopage, à savoir administration, transport, détention et aide à l'usage de substances interdites aux sportifs. Enquête confiée au gendarme spécialisé de l'OCLAESP, c'est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.
Merci Guillaume Biais. J'ajoute que le manager de l'équipe bretonne, Emmanuel Hubert, soutient ses coureurs, mais si les pratiques de dopage sont confirmées, dit-il, il prendra les mesures qui s'imposent.
Comment mesurer la circulation du Covid ? Le nombre de cas augmente, ainsi que le taux de positivité, mais il y a aussi un critère très intéressant à prendre en compte, l'analyse des eaux usées.
Oui, cela fait 6 mois que des chercheurs examinent les traces du virus dans une 60aine de stations d'épuration, dont une bonne partie en Île-de-France. Selon vos informations, Anne Le Gall, les dernières données sont plutôt inquiétantes.
Oui, quand le virus circule dans la population, cela se voit tout de suite dans les égouts. Pourquoi ? Parce que même des personnes très peu symptomatiques rejettent du virus quand elles vont aux toilettes. Et quand les signaux s'allument dans les eaux usées, c'est donc qu'il se passe quelque chose. Ce qui inquiète le professeur Vincent Maréchal, virologue, co-créateur de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées, c'est qu'en cette rentrée, les courbes qui grimpent depuis début juin continuent de grimper et les échantillons d'eau montrent un niveau d'affection de la population équivalent à celui de début mars.
Aujourd'hui, on voit que les mesures qui ont été répétées, qui sont peut-être un peu plus coercitives qu'au début du mois d'août, n'ont pas encore un effet majeur, ne permettent pas en tout cas de réduire la circulation du virus tel qu'on le voit en tout cas à travers les eaux usées.
Alors bien sûr, la situation n'a rien de comparable à celle du printemps. Le port du masque s'est généralisé, les complications du Covid sont mieux prises en charge. Il n'empêche, ces courbes de circulation qui ne s'aplatissent pas, c'est un avertissement, estime ce chercheur. Cela veut dire que le virus continue de gagner du terrain. Il est plus que temps maintenant de prendre des mesures pour préparer l'hiver.
Anne Le Gall, des mesures. Justement, la préfecture du Rhône en a pris hier. Pas plus de 1000 personnes rassemblées pour les événements publics dans l'agglomération lyonnaise. Extension du masque obligatoire et des visites réduites dans les EHPAD. En revanche, pas de fermeture anticipée des bars et des restaurants comme à Marseille ou à Nice. La direction de Bridgestone, intraitable. Pas question de poursuivre l'activité sur son site de Béthune. En revanche, elle est prête à étudier des scénarios alternatifs pour reconvertir l'usine.
On va bientôt voir rouler les TGV français de l'autre côté des Pyrénées. Pour la première fois, la SNCF exporte ses trains en Espagne.
Oui, les détails seront annoncés dans la journée. Aurélien Fleureau, on sait déjà que des TGV low cost vont circuler sur la ligne Madrid-Barcelone.
Oui, la SNCF va proposer une version de Ouigo, le TGV rosé bleu et ses billets à partir de 10 euros. Et c'est vrai que jusqu'ici, quand les TGV de la SNCF dépassaient les frontières de la France, il s'agissait plutôt de partenariats ou de filiales comme avec Eurostar et Thalys. Là, elle devient un opérateur à part entière en Espagne. Ce sera le véritable coup d'envoi de la concurrence sur le marché de la grande vitesse, explique Gilles Dansard, directeur de Mobilettre et spécialiste du ferroviaire.
La SNCF, en fait, elle a choisi d'aller en Espagne avec une tarification agressive pour essayer de séduire le maximum de voyageurs espagnols. Et donc la SNCF va expérimenter cette concurrence d'abord à l'étranger. Elle va challenger son homologue espagnol, la RENFE, mais aussi un Italien. Et donc ça va être le premier pays, vraiment, l'Espagne, complètement ouvert à la concurrence de la grande vitesse.
Donc un match France-Italie-Espagne sur le Madrid-Barcelone dès la fin 2021. L'opérateur italien Trenitalia fera plutôt le choix du haut de gamme et de l'ultra-rapidité avec des rames commandées à Bombardier. Ces trois opérateurs se retrouveront également en France, là sur la très rentable ligne Paris-Lyon-Marseille, avec là aussi des offres attendues dès l'année prochaine.
Aurélien Fleureau, et puis dernière réunion patronat-syndicat pour encadrer le télétravail. Aujourd'hui, on va en parler dans le journal de 8h avec l'exemple d'entreprises qui n'ont fait revenir aucun salarié au bureau.
7h07 sur Europe 1. Rien ne va plus dans les arcanes de La République En Marche. Hier matin, on apprenait la démission du numéro 2 du parti présidentiel, Pierre Person.
Et dans la soirée, un bureau exécutif s'est réuni dans une ambiance pour le moins tendue, avec amabilité en tout genre, comme nous le raconte Jean-Rémy Baudot.
Tard hier soir, visage fermé, les cadres du parti ont quitté le siège d'LREM sans un mot. Après 3h30 de ce qu'un participant, ouvertement critique, nous a décrit comme un tribunal politique. À l'ordre du jour, il y avait un renouvellement des instances proposé par Stanislas Guérini, le patron d'En Marche. Résultat, 19 votes pour, 1 contre, 4 abstentions. Mais au-delà des chiffres, le malaise est profond. Après les récentes déconvenues électorales, beaucoup de marcheurs s'avouent perdus. Nous ne savons plus ce que nous portons, a fustigé hier soir la députée Aurore Berger, qui quitte ses fonctions à la direction du mouvement. Il y a une crise, reconnaît sobrement un cadre historique. Mais fait nouveau, les macronistes déçus n'hésitent plus à critiquer ouvertement le parti et même le gouvernement. Comme quand hier soir, dans le huis clos, un député a taclé le ministre du numérique Cédric O après une intervention. J'espère que tu seras plus convaincant sur la 5G que tu ne l'as été ce soir. Fin de citation. La République En Marche est à bout de nerfs.
Jean-Rémy Baudot, la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, exfiltrée de son domicile. Elle a dû partir en 10 minutes et cela en raison de menaces jugées sérieuses en plein procès des attentats de janvier 2015.
Procès qui se penche en ce moment sur la prise d'otage de l'hypercachère. Hier, malgré la polémique, Anne Hidalgo, maire de Paris, a témoigné à la barre.
Elle a expliqué qu'elle était venue rappeler les valeurs de la République. Quasiment tous les avocats de la défense ont quitté la salle en signe de protestation. Ils ne voyaient pas du tout l'intérêt de cette audition. Maître Cathy Richard, l'une des avocates des partie civile, elle, est restée, mais elle dénonce une tentative de récupération.
Moi, j'ai voulu rester pour voir, pour savoir. J'ai entendu quelqu'un qui est venu faire du clientélisme, quelqu'un qui est venu parler d'elle, de son programme, de ce qu'elle avait fait, qui est très satisfaite d'elle-même et qui est venu faire, je l'estime, de la récupération. Je trouve ça épouvantable, terrible pour les parties civiles. Je trouve que instrumentaliser un tel drame à des fins politiques, c'est lamentable. Ça n'a absolument rien apporté, ni à la manifestation de la vérité, ni à l'émotion du dossier. Vraiment, on se rend compte qu'elle est venue ici faire son autopromotion. Et c'est déplacé à un point inimaginable.
Maître Richard au micro Europe 1 de Chloé Triomphe. L'environnement, préoccupation majeure pour une majorité de Français, mais quels sont les efforts que nous sommes prêts à faire? La moitié des personnes interrogées envisagent d'acheter une voiture électrique. Un tiers se dit prêt à consacrer un peu de son budget à la lutte contre le réchauffement climatique. Un sondage BVA pour le Nexans Climate Day, événement qui se passe aujourd'hui à la Fondation Good Planet à Paris.
Les copains d'abord, le vieux Léon ou encore le grand chêne, les manuscrits originaux d'une vingtaine de chansons de Georges Brassens sont vendus aux enchères aujourd'hui.
Oui, ce sont 150 pages qui permettent de mieux comprendre comment Brassens écrivait ses textes, son cheminement créatif. Diane Shinoda.
Avec cette écriture appliquée, assez ronde, un peu celle d'un écolier sur des feuilles de classeur ou de cahier, Brassens va noircir plusieurs feuillets pour une même chanson. Frédéric Arniche, du département Livres et Manuscrits chez Arcurial.
On voit qu'il a fait ça vraisemblablement en plusieurs temps, puisque la couleur des encres est différente. Il va réécrire très souvent les choses qui lui plaisent jusqu'à ce que la suite vienne. Donc, au lieu de faire des ratures, on en voit quelques-unes, mais globalement, il y en a très peu. Au lieu de faire des ratures, il va remettre au propre, réécrire, en repartant depuis le début à chaque fois pour arriver à quelque chose qui lui plaise.
Le travail d'un perfectionniste qui pouvait mettre 4 ans pour écrire une chanson.
J'eusse aimé célébrer sans être inconvenant. Tendre corps féminin.
On voit comment Brassens, par exemple pour la chanson Le Blason, finit par trouver le mot, la rime juste. Comment le poète parvient à transformer ce qui pourrait être un peu vulgaire en quelque chose de subtil et délicat.
C'eût été mon ultime chant, mon chant du cygne.
Vente de ces manuscrits originaux de Brassens ce soir à 18h chez Arcurial à Paris. Estimation entre 600 € et 18 000 €.
Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.